Alors, pour parler du pouvoir extraordinaire de la gratitude, je reçois Christine Angelard, naturopathe, thérapeute en santé globale et autrice de La gratitude qui guérit, comment soigner les blessures du passé aux éditions Édito, parues en 2018. Bonjour Christine.
Oui, bonjour Chantal, bonjour, merci de me recevoir.
Oui, merci, hein, on commence avec le sujet des merci.
Oui. C'est un petit mot qui a beaucoup de pouvoir.
Oui, tellement de pouvoir. Et c'est ce que je lisais dans votre livre. J'ai toujours tenté de pratiquer la gratitude, mais là, je voyais que vous dites que la gratitude peut guérir nos blessures. Et vous citez d'ailleurs plusieurs études qui démontrent un lien entre la gratitude et la baisse de sentiments dépressifs.
Oui. Oui, oui, oui. Alors en fait, moi, je suis pas du tout psychologue et je me réfère aux travaux des psychologues. Moi, au départ, je suis thérapeute en santé globale, comme vous l'avez dit, naturopathe avec une formation française en médecine, mais ici, je travaille comme naturopathe. Et c'est la confrontation avec mes patients qui m'a aidée, si j'ose dire, à écrire ce livre au bout de X années. Oui, la psychologie positive, essentiellement, qui a débuté aux États-Unis avec les études du professeur Eben, Seligman et d'autres, nous ont montré que la pratique de la gratitude a un effet positif à la fois au niveau du psychisme, de nos émotions et de la santé physique. Et pour répondre plus précisément à votre question, ils se sont rendus compte, il y a des études tout à fait sérieuses qui ont été menées dans les universités américaines et d'autres après, ça fait une quinzaine d'années maintenant que cette branche de la psychologie s'est développée, on s'est tout simplement rendu compte que nos neurones ne pouvaient pas à la fois fonctionner en positif et en négatif. C'est-à-dire que c'est un peu comme le courant, ça. Soit il est...
il est branché.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si je m'applique ou si j'apprends à quelqu'un, si je l'accompagne à pratiquer une gratitude de façon régulière, ses idées négatives, ça ne va pas changer sa situation. Sa situation reste la même. Mais sa connexion neuronale, c'est à la façon d'envisager la vie, va être différente. Et la perception des choses va être moins noire, si on veut, voilà. Et de moins noir en moins noir, on va peut-être arriver à plus clair.
Oui.
Et voilà.
Et donc, c'est ça, j'ai...
Excusez-moi, c'est intéressant de réaliser qu'il y a une réalité physiologique. Les neurones ne peuvent pas à la fois être dans une émotion de positive, sans forcément que ce soit une gratitude et une joie immédiate. Mais petit à petit, c'est vers ça qu'on s'enligne, si j'ose dire. Ils ne peuvent pas à la fois être dans une émotion négative et une émotion positive. C'est-à-dire que la personne qui rumine en permanence le négatif, il va falloir l'aider parce que sinon, elle n'arrive pas à s'en sortir. Quoi. Voilà.
J'avais lu quelque chose de vraiment savoureux qui était « On ne peut pas être de mauvaise humeur quand on sifflote, quand on chante.
» Tout à fait. Ben oui. Et ça ne veut pas dire que la vie est forcément belle. Regardez comment sont nés les négros spéciaux, qui sont nés dans... C'était des esclaves, en fait. Les personnes qui ont développé ces champs noirs absolument extraordinaires, au départ, c'était des esclaves qui étaient maltraités dans des champs de coton ou de je ne sais pas quoi, là, et qui tenaient par le chant.
Oui, les champs de libération.
Les champs de libération, alors... Dans cette histoire, on dit aussi que c'était aussi une façon de communiquer entre eux, mais c'était surtout une façon de résister. De résister en se branchant, je dirais, désespérément sur du positif.
Oui, oui, c'est très beau. C'est pourquoi on aime autant la musique au fil du temps. Et vous parlez dans votre livre, justement, des blessures qu'on peut guérir. Vous notez, entre autres, les 5 grandes blessures de l'âme. J'étais curieuse de vous entendre à ce sujet.
Oui, là aussi, c'est un Américain, Pyrakos, le premier qui a déterminé qu'entre 0 et 7 ans, on est tous confrontés à certaines blessures, à des blessures, à différentes blessures. Donc, il a classifié un petit peu ceci, puis ensuite, ça a été repris par Louise Hay, puis par beaucoup d'autres. Donc, c'est 5 blessures de base qu'on va avoir, auxquelles on va être confronté entre 0 et 7 ans. C'est donc dans l'ordre, si j'ose dire, chronologique, c'est la blessure de rejet, la blessure d'abandon, la blessure de trahison, la blessure d'humiliation et la blessure d'injustice. Alors, on a tous vécu des moments de rejet, d'abandon, de trahison, d'humiliation ou d'injustice. Et puis, il se trouve que dans la vie de tout un chacun, il y en a une parfois, des fois un peu plus, des fois il y en a deux. Mais moi, il y en a une qui va prédominer et qui va, que l'on va transporter toute notre vie, mais pas comme un boulet, comme une occasion de grandir. Alors, c'est très joli de dire ça quand on va bien dans un bureau. Voilà. Mais ces blessures, on les a pour les dépasser.
Oui. Et comment la gratitude nous aide à les dépasser, justement?
Ben justement. Alors, entre autres, alors il n'y a pas que la gratitude, hein, c'est ce que je raconte dans mon livre. Si vous voulez, moi, je suis confrontée à des patients qui viennent pour des problèmes de remise en forme, de santé en général, et qui ont aussi leurs propres blessures, comme moi, j'ai les miennes, etc. Et forcément, on a commencé par les voir, ces blessures, avant de s'embarquer dans une psychologie positive à 100% en disant « tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, et merci mon Dieu, en longueur de journée », il faut d'abord s'attaquer à ces blessures. Et c'était un peu l'intérêt de mon bouquin où je donnais quelques outils, entre autres, parce que je ne suis pas la seule, pour se dégager de ces blessures. Et puis une fois qu'on a vu d'abord la blessure, qu'on en prend soin d'une façon ou d'une autre, qu'on se fait aider, là, on va pouvoir pratiquer cette gratitude parce que c'est comme si on prenait de la hauteur ou de la distance par rapport à notre blessure ou à nos blessures et qu'on voit ça d'un point de vue plus global. Et donc, la gratitude va ouvrir surtout l'énergie du cœur. C'est là où la gratitude va nous guérir. L'énergie du cœur, c'est elle qui peut véritablement faire des miracles et qui peut apaiser. Alors guérir, je ne vais pas vous dire que c'est ça qui va vous guérir un cancer, mais je vais vous dire que ça va apaiser votre cheminement au travers de la maladie. Voilà, il faut faire attention aux mots qu'on emploie.
Oui, absolument, absolument, parce que je regarde ici, il y a eu quelques soubresauts ces derniers jours, du côté de l'homéopathie, là, le Collège des médecins là, qui veut condamner Jacinthe René pour pratique illégale la médecine. Donc, je pense qu'on doit faire effectivement très attention aux termes, mais apaiser, oui, j'en conviens. Et vous employez d'ailleurs un terme en parlant du cœur que je ne connaissais pas, le cœur empereur. Qu'est-ce que
oui,
c'est?
Oui, alors c'est pas de moi non plus, c'est un terme, pour rendre à César ce qu'appartient à César, c'est un terme de la médecine traditionnelle chinoise qui nous apprend que nous avons, entre guillemets, deux cœurs. Nous avons un cœur physiologique que tout le monde connaît bien et qui est bien utile, mais nous avons, l'intérêt de la médecine chinoise, c'est de nous dire dès le début que nous avons ce cœur empereur qui est le pâle reflet de l'énergie céleste qui est en nous. Autrement dit, c'est ce qui m'avait intéressée, moi, jeune médecin, quand je me suis inscrite à ces cours de médecine chinoise, c'est de voir justement cette dimension plus verticale, si j'ose dire, des patients en général. C'est-à-dire qu'on a tous une parcelle d'énergie spirituelle en nous. Je parle bien de spiritualité, là aussi, et pas de religion.
Non, effectivement.
Même si la religion est une des formes de la spiritualité, et n'est pas forcément, on n'est pas obligé de jeter l'eau avec le bébé avec l'eau du bain, là, mais là, je parle de spiritualité. C'est-à-dire que tout être a en lui une énergie sacrée, on va dire. C'est un mot peut-être moins, là. Enfin, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a comme mot qui est moins violent, là, pas pour... Mais donc oui, ce cœur empereur, c'est notre âme, c'est notre sagesse, c'est ce qui nous relie à l'invisible, c'est ce qui continuera à être une fois que la matière aura disparu.
Donc, en fait, ça cadre très bien avec notre émission parce qu'on parle de relier d'un fil entre les générations. Donc je le vois comme une connexion, justement, tout ce qu'on a acquis, notre bagage, se transmet à la génération prochaine. Donc il y a un espace sacré là où on est dans la transmission à la prochaine génération.
Tout à fait, et la transmission de la joie, parce qu'on nous a souvent longtemps entendu que le péché était originel, et pour plusieurs personnes dont je fais partie, enfin pour beaucoup de monde, c'est pas le péché qui est originel, c'est la joie.
Oui.
Et cette joie, c'est ça qu'il faut préserver. C'est ça qu'il faut... C'est comme une petite lampe. Moi, je dis souvent à mes amis, à mes patients, je leur dis, il faut garder notre petite lampe allumée. On ne va pas changer le monde. Mais là où je suis, avec ce que je vis, comment je peux mieux traverser ce que j'ai à traverser. Et ça, c'est peut-être effectivement ce qu'on a, les grands-parents ou les parents, mais encore plus les grands-parents, ce qu'on a à transmettre à nos petits-enfants, c'est que c'est l'espérance. Voilà. L'espérance, c'est pas que tout va très bien, c'est qu'il y a, il y a un chemin qu'on ne voit pas pour le moment, mais un pas après l'autre, on va peut-être sûrement même voir le chemin se dessiner.
Mais voilà. on a ce recul-là. Alors, je vous propose, Christine Angelard, d'écouter une pièce musicale et on poursuit tout de suite après notre entretien. Donc, il s'agit de « Count Your Blessings », une chanson classique qui est ici interprétée par Holly Cole. C'était « Count Your Blessings », interprétée par Holly Cole, mais c'est une vieille chanson écrite par Johnson Oatman, qui date de 1897. Alors, comme quoi, hein, la gratitude...
On n'a rien inventé.
Non. On parlait, Christine Angelard, tout juste avant la pièce musicale, des liens intergénérationnels et de l'aptitude là, de nos aînés peut-être à nous aider à voir une plus grande perspective. Et vous racontez dans votre livre une histoire entre l'histoire en fait du bon et du méchant loup. Pourriez-vous nous la raconter?
Oui, bien sûr, avec plaisir. Oui, mais justement, c'est une légende amérindienne. Hein, c'est un grand-père avec son petit-fils. Et le grand-père explique au petit-fils qu'on a en nous un méchant loup et un gentil loup. On a des côtés très sympathiques, mais on a des petits côtés d'ombre, hein, dirait Julien. Et donc, il lui explique ça, tout le monde, même la meilleure personne, elle aussi, sa part d'ombre. Et donc, le petit garçon lui dit, mais comment on fait alors pour que ce soit le bon loup qui gagne?
Ouais.
Et le grand-père lui répond, ça dépend de celui que tu nourris. Voilà. Donc, est-ce que je nourris l'ombre en moi ou est-ce que je vais nourrir la lumière? Et plus je m'applique à nourrir la lumière et plus l'ombre va diminuer. Mais on va la traîner jusqu'à la fin, notre part d'ombre quand même. Ouais. Mais moins violente.
Donc, dans la gratitude, il y a vraiment un exercice, une participation active pour cultiver.
Tout à fait. Il y a une participation active et vraiment, les travaux de psychologie positive nous démontrent, mais A plus B égale C, là, si je veux dire, nous démontrent de façon tout à fait scientifique que la pratique quotidienne de la gratitude, Seligman avait fait une étude où il montrait que si dans une journée, on arrivait à repérer 3 situations qui nous ont fait du bien, c'est pas forcément gagner au loto ou je sais pas quoi, c'est 3 situations positives, si j'arrive à les repérer, et si je fais ça tous les jours, au bout de 3 semaines, la sensation de bonheur est augmentée. Rien n'a changé dans la vie, pas grand-chose, mais je me sens mieux. Voilà. Bon, ça, c'est une des expériences. Après, il y a aussi sur la longévité. On s'est rendu compte que les gens qui avaient cette aptitude, et c'est là où on n'est pas tous égaux, et c'est là où on a besoin d'aide. Les gens pour qui la gratitude, c'est naturel, et d'autres pour lesquels c'est plus difficile.
On doit muscler vraiment. J'ai envie, vous parliez d'études scientifiques et j'ai envie de vous faire entendre un extrait d'un film que vous connaissez peut-être, le film La Crise.
Ah bah oui.
Oui, hein? On écoute l'extrait, on en parle tout de suite après.
Pas homéopathe, allopathe! Je reviens de la banque, on a un découvert de 20 briques. Grâce à quoi? À l'homéopathie. Avant, quand il était allopathe, il voyait entre 60 et 70 personnes par jour, 10 minutes chacun, une bonne grosse ordonnance bourrée de médicaments, paf, c'était emballé! À 150 francs par personne, vous n'avez qu'à faire le compte. Maintenant qu'il est homéopathe, il voit plus que 10 personnes par jour. Il passe une heure avec chaque client, hein, une heure. 12 personnes au lieu de 65, vous n'avez qu'à faire le compte.
Alors, c'est le film La Crise de Colin Serrault. Si vous n'avez pas vu ce film, chers auditeurs, je vous le recommande fortement. Donc, c'est l'épouse du médecin qui a changé justement d'orientation vers l'homéopathie. Et donc, on le voit, là, c'est une médecine davantage préventive que notre médecine occidentale qui est plus prescriptive.
Mm-hmm. Oui, mais là, si vous voulez, je vais pas. C'est toute la différence entre la différence porte sur le temps accordé à son patient et sur le temps d'écoute et d'accueil. Et il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Et je suis pas sûre qu'on ait le temps. Et en même temps que ce soit le lieu, parce que la médecine reste l'apanage des médecins et il faut pas leur enlever. Nous, en médecine complémentaire, nous accompagnons des sujets à aller mieux dans leurs émotions, dans leur corps physique avec des plantes, mais il est hors de question de s'opposer à la médecine classique.
Non, c'est ça, c'est là où il y a un beau complément et je crois que les gens peuvent avoir l'ouverture dans ce sens-là et non pas de penser remplacer parce que c'est là que ça peut devenir dangereux.
Et d'ailleurs, ça s'appelle une médecine complémentaire.
Mm-hmm.
Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça vient compléter la médecine classique. Mais c'est le médecin qui porte le diagnostic, c'est le médecin qui donne un traitement. Les médecines complémentaires viennent soutenir et accompagner. Et bien évidemment, moi j'ai une formation de médecin au départ, mais je n'exerce pas comme médecin ici. Et j'ai une formation de naturopathe, d'homéopathe et de médecine chinoise. Donc c'est des outils qui me permettent d'aider les patients qui par ailleurs sont suivis par leur médecin. Mais c'est une ouverture à avoir, bien sûr. Mais il y a de plus en plus de gens qui l'ont. Il y a encore des structures qui coincent, mais l'ouverture, elle se fait. Elle se fera de plus en plus.
Mais on entend d'ailleurs beaucoup en ce temps de pandémie, là, plusieurs professionnels de la santé dire d'investir sur la vigueur de notre système immunitaire.
C'est la base.
Mm-hmm.
C'est la base. Parce que des virus, il y en aura encore, et encore. Vous savez, c'est complexe ce qu'on vit en ce moment. Parce que le gouvernement nage une brasse crawlée absolument fantastique, là, partout, dans tous les... On est confronté à quelque chose que l'on ne connaît pas et on essaie de tirer une ficelle à droite, à gauche, en allopathie pour trouver le meilleur traitement possible. Et c'est tout à leur honneur. Et à côté... Il était important de rappeler que l'individu a, lui, à prendre en charge sa santé globale, la façon dont il vit, la façon dont il mange, la façon dont il se repose.
Effectivement, c'est des leviers sur lesquels on peut agir. Donc, peut-être, Christine Angela, en terminant, peut-être un petit exercice que vous nous suggérez de faire, là, outre les trois gratitudes par jour?
De tenir un cahier, de tenir un journal, de tenir un cahier et de noter donc tous les jours un petit peu ce qui s'est passé de bien. Parce que si c'est passé de mal, il n'y a pas de souci, on s'en souviendra.
Oui, c'est ça. Écoutez, c'était pour moi l'un de mes moments de gratitude, vous recevoir. J'ai vécu avec vous un beau moment positif.
C'est gentil.
Alors, je rappelle le titre de votre livre, « La gratitude qui guérit ». Comment soigner les blessures du passé aux éditions Édito et ça a été publié en 2018.
Merci beaucoup.
Un grand merci à vous, Christine Angelard. Merci, merci.
Merci, belle continuation à tous et à une autre fois.
Au revoir.